Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Carlos Ghosn de plus en plus enferré au Japon. De nouvelles inculpations ce matin, mais ses avocats demandent sa libération sous caution. Nous sommes à Tokyo dès le début de ce journal. Alors qu'en France, Renault n'a rien remarqué de suspect dans la gestion de son patron. Pourtant, une de ses proches aurait été grassement rémunérée en toute opacité. Les Gilets jaunes et un 9e samedi de manifestation avant le grand débat la semaine prochaine, première étape en Normandie. Et vie ma vie de Gilets jaunes aujourd'hui pour le secrétaire d'État Mounir Majoubi. Le grand débat pollué par l'affaire Benalla, le Sénat rouvre sa commission d'enquête. Et à 8h20, Nicolas, une adepte de la démocratie participative au micro.
Oui, elle l'avait défendue et théorisée en 2007 pendant sa campagne présidentielle. Ségolène Royal dans le grand entretien de la matinale. Le Standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Au menu également le Rassemblement National qui lance sa campagne européenne ce week-end. Mais les eurosceptiques n'ont théoriquement aucune chance de dominer le Parlement de Strasbourg. La Syrie et les djihadistes qui regagnent du terrain, ils viennent de prendre le contrôle de la province d'Idlib. L'alternance démocratique en marche au Congo-Kinshasa, nous y serons. Et puis nager comme une sirène, ça n'est pas une chimère, mais un sport en queue de poisson, et oui, et de plus en plus pratiqué dans les piscines françaises.
France Inter.
53 jours entre quatre murs sur un tatami, des interrogatoires quotidiens jusqu'à 8 heures par jour. Le dernier a dû être interrompu pour cause de forte fièvre. Carlos Ghosn est malade et le voilà de nouveau inculpé par la justice japonaise. Avec nous Isabelle Raymond en direct de Tokyo. Isabelle, cette fois le patron déchu de Nissan est notamment poursuivi pour abus de confiance.
Oui, après avoir maintenu Carlos Ghosn en garde à vue pendant plus de 50 jours, vous l'avez dit, le procureur de Tokyo pense avoir suffisamment d'éléments pour poursuivre l'ancien patron de Nissan pour tous les faits dont il l'accusait. Ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus entre 2010 et 2018, il est désormais mis en examen pour abus de confiance, soupçonné d'avoir fait endosser à Nissan de lourdes pertes financières personnelles contractées pendant la crise de 2008. Un volet de l'affaire dans lequel le constructeur japonais est également mis en examen. L'avenir s'assombrit donc pour Carlos Ghosn qui visiblement n'a pas convaincu quand il clamait son innocence en début de semaine lors d'une audience publique exceptionnelle ici à Tokyo. Au Japon, plus de 99% des personnes inculpées sont condamnées par la suite. Alors va-t-il rester derrière les barreaux jusqu'à son procès qui ne se tiendra pas avant plusieurs mois? Ses avocats vont déposer une demande de libération sous caution, mais vu toutes les inculpations, Florence, elle a peu de chances d'aboutir.
Isabelle Raymond à Tokyo avec Arthur Gerbeau. Alors depuis le début, on ne parle que de malversation présumée chez Nissan. Quid de Renault, dont Carlos Ghosn est toujours le PDG? Hier soir, l'agence de presse Reuters révélait qu'une de ses proches, directrice chargée de la gouvernance chez Renault, avait touché 500 000 euros avec sa bénédiction, sans que le conseil d'administration ne soit au courant. Pourtant, presque au même moment, Renault communiquait les résultats de son audit interne, Maxime Deps, et concluait à l'absence de malversation du grand patron.
Rien à signaler. Ou presque, résumé de la soirée, hier 20h, la réunion s'achève, Renault envoie un communiqué formel pour les années 2017 et 2018. Le dossier de Carlos Ghosn ainsi que de l'ensemble des membres du comité exécutif n'est entaché d'aucune irrégularité. Pas la moindre fraude constatée, assure le constructeur, tout est ok. Conformément à la saisine initiale, la mission se poursuivra sur les exercices antérieurs, conclut le document. Promesse de clarté donc jusqu'à cet urgent de l'agence Reuters qui tombe à quelques minutes d'intervalle. Une cadre dirigeante de Renault aurait perçu sur plusieurs années jusqu'en 2016 un complément de salaire total de 500 000 euros via la holding de l'Alliance aux Pays-Bas. Les autres administrateurs n'en auraient pas été avisés. Interrogée, la direction élude promet une réponse plus tard. Un syndicaliste hors micro lâche. Peut-être que tout finalement n'est pas si transparent.
Et pas de commentaires de Bercy pour l'instant.
Il est 8h05, la Normandie, première étape du grand débat national lancé par Emmanuel Macron la semaine prochaine.
Et oui, le pays du peut-être ben que oui, peut-être ben que non, choisi par le président mardi pour tenter de dénouer la crise des gilets jaunes à Bourterould, 3800 habitants dans l'Eure, réunion au gymnase de la commune avec des maires du département et des habitants partagés, Sébastien Sabiron, entre indifférence et inquiétude.
Devant l'hôtel de ville, les barrières de chantier sont retirées, projectiles potentiels, Gilles, gilet jaune, un peu soucieux.
C'est une bêtise parce que ça fait peur aux commerçants. On sait très bien qu'il va y avoir des rassemblements de gilets jaunes qui vont être là. À chaque fois, ça dégénère parce que c'est les forces de l'ordre qui nous gazent. J'ai peur que ça se fasse pareil à Bourtoude.
Inquiétude partagée par Estelle, la boulangère.
On ne sait pas trop s'il va y avoir des casseurs, on ne sait pas ce que va devenir nos boutiques. Je trouve qu'on était tranquille et que c'est un peu dommage de ramener la foule. Et puis lui, il s'en fout complètement de nous, je pense. Qu'il soit ici ou qu'il soit dans n'importe quelle autre ville, de toute façon, le problème, c'est d'écouter et d'agir.
D'accord, merci. Bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Stéphane, lui, espère que ce premier contact avec les maires sera constructif.
C'est bien qu'ils viennent sur le terrain, être au contact des gens, puis se rendre compte de la réalité. Je pense que maintenant, il faut entamer le débat et arrêter ce qui se passe quand on voit la violence que ça engendre.
Besoin d'apaisement dans cette commune où le mouvement des gilets jaunes est très suivi, le maire Vincent Martin.
Animer le débat me semble important puisqu'on a nos habitants qui ont d'énormes revendications. Au moins essayons de faire ce premier pas pour consigner, faire remonter les informations et on va regarder tous ensemble comment ça va se passer après, quels vont être les actes.
Car à Bourtereulde, avant même son coup d'envoi, on est assez dubitatif quant à l'issue concrète de ce grand débat national.
Voilà Emmanuel Macron dans l'heure mardi, Mounir Majoubi dans le Var aujourd'hui, 24 heures avec une gilet jaune, assistante de vie. Immersion suivie en exclusivité par Cyril Graziani chez Céline à Fréjus qui a bien voulu accueillir le secrétaire d'État de Bercy.
Ce soir Céline ne changera pas de menu.
Une soupe chinoise qui coûte 70 centimes.
Un ministre a dîné à la maison, ça n'est pas tous les jours, alors ce sera un peu amélioré.
On va faire les courses, donc comme ça on va choisir ensemble.
Céline est gilet jaune depuis le début du mouvement, assistante de vie, 50 heures de travail par semaine et un crédit qui, à la fin du mois, ne lui laisse que 300 euros pour vivre.
Avec 300 euros, il faut que je mange pour le mois, que je paye mon essence, que éventuellement je puisse acheter des vêtements pour ma fille.
Ces week-ends, depuis le 17 novembre, elle les a passés sur des ronds-points du Var. Mounir Majoubi, elle l'a rencontré sur un plateau télé en décembre et depuis, ils ont toujours gardé le contact.
Je pensais sincèrement pas qu'il allait venir. La grande chance que j'ai eue, c'est que Mounir a une façon de fonctionner et une humanité que peu de politiques ont.
Toute la journée, le ministre va l'accompagner auprès de ses patients. Ce soir, il rencontrera d'autres gilets jaunes. Céline veut notamment aborder la question du grand débat.
Ah mais bien évidemment que je vais y participer. C'est pas que j'ai envie, c'est que en fait j'attends ça avec impatience. Juste la première fois qu'on peut nous laisser la parole. Alors maintenant, la question se pose aussi, est-ce qu'on va être entendu réellement ?
Mounir Majoubi sera sous le feu des questions, mais il a aussi promis de préparer le dîner lui-même, un ministre au fourneau. Fréjus, Cyril Graziani, France Inter.
Et demain, 9e samedi de mobilisation avec un dispositif de sécurité aussi musclé qu'à la mi-décembre. 80 000 policiers et gendarmes. Les appels à manifester se concentrent sur Paris et Bourges où les banques, les musées et les jardins publics seront fermés. Et pendant ce temps-là, revoilà Benalla, convoqué par le Sénat dans 10 jours au sujet de ses passeports diplomatiques. Les sénateurs, toujours pugnaces dans cette affaire, rouvrent leur commission d'enquête. Écoutez Patrick Kanner, sénateur PS du Nord, et membre de la commission des lois avec Nicolas Taillard.
Il y a quand même des éléments nouveaux et nous allons demander déjà à M. Benalla si, oui ou non, il a menti devant la commission. Il avait dit « mes passeports sont à l'Elysée » et finalement, ils ne l'étaient pas. Donc, ou bien, effectivement, on lui a redonné et qui lui a redonné ses passeports, ou bien il nous a menti sciemment puisqu'il, vous savez, qu'il était sous serment. Donc, nous allons vérifier ses dires et puis faire le point aussi avec les ministres et les responsables politiques du cabinet de M. Macron, puisque derrière quand même cette affaire de passeport, c'est toute la place de M. Benalla au sein, je dirais, du cœur de l'Élysée auprès du président de la République qui est posé.
Oui, dès mercredi prochain, au lendemain du lancement du grand débat, les sénateurs entendront le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et Patrick Strozza, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron.
Il est 8h09, les eurosceptiques Florence vont-ils rafler la mise au Parlement européen en mai prochain ?
Marine Le Pen lance sa campagne dimanche, elle annoncera les 12 premiers candidats de sa liste, emmenés par Jordan Bardella. Les ex-UMP Thierry Mariani et Jean-Paul Garot en feront partie. Mais que pèse la présidente du Rassemblement National et ses alliés d'extrême droite en Europe ? Eux qui ne cessent de dire que cette fois ce sera la bonne, qu'ils vont renverser la table, en dépit des estimations du Parlement. Maxence Lambrecq, les eurosceptiques n'auraient en réalité aucune chance d'obtenir la majorité.
En France, tout semble sourire à Marine Le Pen. Mais hors micro, à Bruxelles, ses amis le reconnaissent, le RN
et ses alliés n'arriveront pas en tête au soir des européennes, car les partis de droite restent favoris dans une douzaine de pays et notamment en Allemagne. C'est donc le PPE qui devrait garder la main avec environ 180 députés. Le président du mouvement européen en France, Yves Bertoncini.
Les eurosceptiques, les europhobes, l'extrême droite ne peut pas gagner les élections européennes. Le PPE, les conservateurs, démocrates chrétiens arriveront en tête. Mais ils peuvent gagner peut-être politiquement si leurs idées sont reprises par les partis qui seront au poste de décision dans les 5 prochaines années.
Pour gagner cette bataille des idées et donc faire bouger la droite traditionnelle, Marine Le Pen compte sur son ami Matteo Salvini. C'est lui, le vice-premier ministre italien, qui est à la manœuvre, qui tente de réunir tous les eurosceptiques sous une même bannière, du Hongrois Orban au Polonais Kaczynski, des Allemands de l'AFD aux vrais Finlandais. Ils sont aujourd'hui disséminés dans 4 groupes politiques. N'en former qu'un seul serait une démonstration de force, potentiellement 150 députés réunis pour tenter de bloquer des votes stratégiques, devenir acteur et non plus observateur.
Maxence Lambrecq, c'est confirmé, les 2 militaires dont le Mirage 2000 s'est écrasé avant-hier dans le Jura sont morts. Les circonstances de l'accident restent à établir, selon la ministre de la Défense qui se rendra sur la base aérienne de Nancy-Auchet aujourd'hui. Une nouvelle brèche dans le modèle Uber. La cour d'appel de Paris hier a estimé que le lien qui l'unissait à un ancien chauffeur était un contrat de travail. Le chauffeur en question avait vu son compte fermé par Uber. Il va pouvoir porter son cas devant les prud'hommes.
8h11, la République démocratique du Congo à l'heure de l'alternance.
Félix Tshisekedi, premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance, opposant au Kabila, père et fils qui auront régné 20 ans, même si les résultats annoncés il y a 24 heures ont été mis en doute par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Reportage dans son fief de Goma, signé Anthony Fouchard.
Les scènes de liesse au beau milieu de la nuit n'auront duré que quelques heures. Ici, on a fêté avant tout la défaite du candidat de la majorité présidentielle et l'on veut croire à une alternance politique.
Ce que je peux vous dire est que nous venons vraiment de très 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 loin. Ça fait 17 ans que nous sommes en train de lutter afin que ces régimes changent. Malheureusement, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, nous venons maintenant de réussir de changer ces régimes qui nous a fait tant souffrir.
Pas sûr pour autant que Félix Tshisekedi, désigné vainqueur provisoire, incarne le changement tant attendu. À Goma, comme quasiment partout dans le pays, c'est Martin Fayoulou qui est arrivé largement en tête. Mais pour cet habitant, ce n'est pas un problème.
Je pense que le problème serait si Tchadari serait proclamé. C'est là où il y aurait un grand problème. Celui qui vient de passer, c'est quelqu'un de l'opposition. Laissons-lui travailler, nous ne voulons plus de difficultés. C'est le moment que les peuples congolais s'unissent les mains dans la main.
Avec Félix Tshisekedi, c'est un opposant qui gagne, mais à quel prix ? Joseph Kabila a réussi à monter les deux oppositions les unes contre les autres. Martin Fayoulou devrait contester les résultats dans les prochains jours. À Goma, Anthony Fouchard, France Inter.
En Syrie, pas de retrait brutal des troupes américaines. Donald Trump a mis de l'eau dans son vin ces derniers jours. Impossible de prétendre que les djihadistes sont vaincus. Ils viennent de prendre la province d'Idlib et ses 3 millions d'habitants. Aurélien Colli, c'était le dernier bastion des rebelles syriens.
C'est l'épilogue de 10 jours de violents combats lancés par les djihadistes, soldés par la prise de contrôle par les armes de dizaines de localités et finalement par cet accord de trêve imposé aux rebelles modérés. Une victoire qui leur permet de renforcer leur emprise sur la province d'Idlib où ils vont étendre leur autorité civile avec leur gouvernement de salut. Une victoire qui leur permet aussi de s'imposer comme interlocuteur principal pour toute solution politique sur la province alors que la Turquie privilégiait et soutenait les modérés. Mais cette victoire donne aussi un prétexte en or au régime syrien et à son allié russe pour lancer la reconquête de ce territoire que Damas a toujours voulu. C'est un accord entre Russie et Turquie en septembre dernier qui avait repoussé cette offensive en instaurant une zone démilitarisée autour de la province et en prévoyant la mise au pas des djihadistes par Ankara. Désormais, l'accord paraît bien fragile, d'autant que les djihadistes ne l'ont jamais ouvertement accepté. Le ministre turc des Affaires étrangères l'a d'ailleurs reconnu hier. Il ne sera pas très facile de le maintenir. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Quand le Vatican se pique de sport, l'État pontifical a officiellement lancé sa fédération d'athlétisme et rêve de Jeux Olympiques. 60 religieuses, prêtres et gardes suisses sont dans les starting blocks pour des petites compétitions dans un premier temps. L'autre info sportive de la nuit, c'est la retraite d'Andy Murray, le tennisman britannique, ancien numéro 1 mondial au mauvais caractère, n'arrive pas à se remettre d'une opération de la hanche. L'Open d'Australie en janvier pourrait être son dernier tournoi. Et puis là aussi, c'est du sport, mise à l'honneur au sein salon de la plongée à partir d'aujourd'hui à Paris. La nage de sirène se développe en France. Sonia Gobry est allée voir ses chimères à queue de poisson dans une piscine parisienne.
Avant de commencer le cours, Océane, la prof, demande à son élève d'enfiler sa queue de sirène et c'est assez technique.
On a les pieds attachés, donc une fois qu'on a la queue de sirène, interdit de se lever. Ça peut être dangereux, on a forcément un petit réflexe de vouloir marcher, sauf qu'on ne peut pas marcher. Il faut penser à tout prendre avant de mettre la queue de sirène et pas être trop loin du bassin parce que après on rampe, c'est un peu long. Ça va ?
Ça toute ma vie.
Et pourtant, c'est la première fois que Laetitia nage comme une sirène.
Je trouve ça magique. En plus, j'ai une jolie queue de sirène colorée. Donc...
Océane est passionnée par cet univers depuis son enfance. Elle a découvert les cours de sirène il y a 5 ans pendant des vacances en Floride. L'activité est plus développée aux États-Unis, au Qatar et aux Philippines.
On a tendance, en tout cas en France, à pas prendre au sérieux les cours de sirène. On s'arrête toujours au côté un peu cliché, fifi, paillette, féerique. Mais on oublie tout le côté sportif de la discipline. On fait pas que mumuse en fait. On fait vraiment du sport.
J'ai pu avoir des abdos, fessiers bien musclés, j'ai des cuisses plus musclées qu'avant.
Jonathan, un homme triton, confirme, parce qu'il faut onduler son corps, c'est aussi beaucoup d'apnée.
Quand on a la tête sous l'eau, on n'entend rien. Ça nous permet de nous libérer, de penser à autre chose.
Et si vous êtes moins sportif, vous pouvez trouver des spectacles de sirènes dans certains aquariums, en ce moment à Paris ou à Brest.
Voilà, si vous voulez faire le triton, Nicolas. Enfin, dans un tout autre style, rap, boxe et marketing, le rappeur Booba annonce pour le 5 avril à Bruxelles un combat de boxe contre son rival Caris avec 300 000 euros garantis à la clé, dit-il. Les deux hommes condamnés pour une bagarre à Orly cet été ont toujours envie d'en découdre et encore plus d'en faire un événement, manifestement. Si ce combat voit le jour, ce sera cette fois dans les règles, en catégorie lourd-léger, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos.